que j'aime beaucoup.
Ouais. Un peu comme Pepe Braddock, iCube, c'est des, voilà, des producteurs de talent, malheureusement qui n'ont pas eu forcément la couverture médiatique, mais je pense que c'est voilà, dans leur propre recherche.
Pas cherché pour le coup. Quoi.
Non, voilà, c'est des, voilà, des producteurs.
Lui, Guillaume Berroyer, toute l'équipe de Cara, de toute façon.
C'est ça.
C'était de la balle, ça l'est toujours d'ailleurs.
Voilà.
Bon, messieurs, il est 19h.
Ah. Est-ce que c'est l'occasion d'annoncer quelques soirées syndicales?
Bah, je crois qu'il y a un événement qui se profile à l'horizon au printemps.
Ah bah pour mars, hein, on va vous calmer.
Ah, c'est ça.
Ah, direct, on parle pas du marathon là.
Bah, c'est ça.
La tournée générale, s'il vous plaît, monsieur. La tournée générale.
La tournée générale.
Voilà.
Bon, mais non, vous aurez des développements, des précisions. Voilà, on est d'ailleurs à cette heure-ci en train de travailler dessus.
Pleine réunion, c'est indiqué.
Bah oui.
Bonne émission, les copains.
Bah merci, bonne réunion.
Merci beaucoup, Fred.
C'est parti.
À très vite. Que se passe-t-il ici au juste? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues des de interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir, Karl. Ce livre fait événement cette rentrée de janvier 2023. Il s'appelle « Après le changement climatique, penser l'histoire », écrit par le grand historien indien et américain Dipesh Chakrabarty. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. Alors le titre est un peu bizarre parce qu'on le connaît plutôt en anglais, ce titre « The Climate of History in a Planetary Age ». Et le terme « planetary », c'est-à-dire le terme « planétaire » en français, est essentiel dans ce livre, même s'il n'est pas transmis dans le titre. Et pour parler de ce livre, puisque à cette émission du fictionnaire, nous ne pouvons pas encore véritablement interviewer des Américains et avoir la traduction simultanée, seule Radio France a cette possibilité-là, mais hélas, Dipesh Chakrabarty n'a été interviewé que dans une petite émission, pas très très connue, et une seule fois pour ce livre, parce qu'ils sont incapables de repérer ce livre-là et de se dire c'est le livre star, c'est le livre événement, c'est le livre qui est peut-être capable de véritablement changer notre cosmopolitique à l'heure de la catastrophe climatique et écologique. Et heureusement, nous avons et nous allons avoir et diffuser cette interview en fin d'émission avec Jeanne Etelin et Patrice Maniglier, tous les deux philosophes, pour leur article appelé « Ramener la critique sur Terre, le tournant planétaire » de Dipesh Chakrabarty. Ça, c'était leur lecture du livre en anglais. C'était paru dans cette excellente revue critique. C'était le numéro de août-septembre 2022, spécial, vous avez dit « Nature ». Dire aussi que ce livre de Dipesh Chakrabarty, « Après le changement climatique, penser l'histoire », se termine par une conversation entre Dipesh Chakrabarty et Bruno Latour, intitulée « Le global » révèle le planétaire, parce qu'ils sont nés quasiment la même année, tous les deux, Dipesh Chakrabarty et Bruno Latour, et qu'ils ont pensé conjointement. Ils sont devenus amis à force. Et nous allons commencer cette émission par parler de Bruno Latour avec Frédéric Haït Touati, grande latourienne. Et nous allons notamment parler de deux éléments forts de Bruno Latour, l'école des arts politiques qu'il a fondée à Sciences Po. C'est le fameux PIP à Sciences Po. Et il y a ce livre paru au Lien qui Libère qui s'appelle « Puissance de l'enquête, l'école des arts politiques ». Nous allons donc parler de cela avec Frédéric Haït Touati. Et également de ce superbe livre aux éditions B42 qui est sorti très très beau, qui s'appelle « Trilogie terrestre », où vous retrouvez les trois pièces qu'a écrit Bruno Latour, mis en scène par Frédéric Haït Touati. Ça fonde la trilogie terrestre, c'est-à-dire que nous avons à la fois SPIP, l'école des arts politiques fondée par Bruno Latour, et à la fois du théâtre latourien avec Frédéric Haït Touati. Nous allons commencer par elle, juste après, bien entendu, le sacro-saint morceau de musique carlien.
C'est de pire en pire.
C'est l'emphase.
C'est vraiment de pire en pire. Eh ben, je reviendrai pas le mois prochain, tiens, voilà, c'est dit.
Mais que vais-je devenir ? Me voici ça, seul sur la planète Alone in the Space.
Tu vas brancher ton Spotify.
Oula, qu'est-ce que c'est que cet appareil bizarre ?
Tu verras, ça marche très bien.
Serait-ce un programme informatique ? Hein, mais tes belles pochettes me manquent déjà.
Ouais, Eliane Radigue, c'est elle qui ouvre le bal avec ce morceau Vice Versa. On va passer plutôt Versa. Ça a été créé il y a 50 ans maintenant, je pense, au moins. Dans le but d'être diffusé sur 2,45 tours, en fait. C'était sorti comme ça au départ et tu pouvais vraiment écouter, si tu avais deux platines, en même temps le mélange en fait, de ces deux pièces. Quoi. Donc vous allez voir, c'est assez minimal. Hein. Peut-être qu'il faut effectivement en mettre deux couches pour que ça soit un peu plus intéressant.
Et alors, ça, je crois que c'est pas sur Spotify.
Si, Eliane Radigue, elle doit y être. À vérifier. Après, le son est peut-être pas terrible.
Et donc, on écoute une expérimentation du début des années 70, si
oui,
j'ai bien compris.
Oui, qui est quand même... c'est pas que de l'expérimentation, c'est presque un peu écrit, tout ça.
Et cette femme, elle a eu gloire,
elle est hautement respectée, elle est toujours en vie, je crois.
D'accord.
Elle a marqué la musique contemporaine de sa présence et de son empreinte, mais c'est vrai qu'elle n'est pas connue, beaucoup moins que nous.
Et par rapport à la musique concrète que tu affectionnes, par exemple, de cette obédience, non, pas du tout.
Ah bah si, c'est plutôt ça là.
D'accord, c'est
on
ça.
Y est, ouais.
On y est donc avec les chauffeurs, Parmigiani qui nous faisait écouter.
Ferrari plus, parce Ferrari, qu'elle d'accord. aime bien aussi un peu le field recording, des choses comme ça. Mais
donc
c'est,
on est dans cette obédience, du coup.
Oui.
Ok.
On va écouter.
Merci de nous faire découvrir, Karl.
On l'avait déjà passé en plus, mais c'était il y a longtemps. Quoi.
C'est merveilleux. Ça s'appelle l'émission du Fictionnaire. Vous êtes sur Radio Campus Orléans. En compagnie de Frédéric Aïtouati, merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'EHESS. C'est le troisième entretien que nous avons ensemble. Nous n'allons donc pas avoir de redite. J'invite les auditrices, les auditeurs à écouter sur l'émission du Fictionnaire les deux derniers entretiens qu'on a eus ensemble, les deux premiers, et notamment le deuxième qui explique bien déjà ce qu'est le théâtre latourien, ce que vous avez fait comme théâtre avec Bruno Latour, et qui explique aussi un petit peu SPIP. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en invitant les auditeurs et les auditrices à écouter la deuxième interview que nous avons eue ensemble en 2021. Je vous interview à propos de ces deux livres qui sont sortis récemment, Puissance de l'enquête, l'école des arts politiques, que vous signez avec Jean-Michel Frodon, Bruno Latour et Donato Ricci, c'est sorti aux éditions Les Liens qui Libèrent, et puis ce livre qui s'appelle Trilogie terrestre, qui donne à lire trois conférences de Bruno Latour, Inside, Moving Earth et Viral, qui est sorti aux éditions B42. Ce sont donc de ces deux livres-là que nous parlons. Je voudrais que nous commencions par Puissance de l'enquête, et notamment ce titre-là. Donc ce livre est consacré à SPIP, l'école des arts politiques, et le titre Puissance de l'enquête est essentiel à notre affaire. C'est le mot enquête sur lequel j'ai envie de vous interroger.
Merci d'abord de revenir me voir et m'écouter et m'enregistrer. Je voulais commencer cet entretien ensemble, Dominique, en, Signalons que nous sommes en janvier 2023 et que les deux livres dont vous parlez sont parus, l'un en septembre 2022 et l'autre en octobre 2022, les deux avant le décès de Bruno Latour. Voilà, c'est important pour moi de rappeler ça, que c'est une rupture chronologique, historique fondamentale pour moi, pour beaucoup de gens, que le décès de Bruno le 9 octobre 2022. Et les deux livres dont nous allons parler aujourd'hui ensemble, et cela me réjouit, ont été faits avec Bruno. Il les a vus. Trilogie terrestre, vraiment, il était déjà à l'hôpital quand je lui ai apporté le livre tout début octobre. Et puis, Sens de l'enquête, nous avons fêté la sortie du livre, la célébration des 10 ans de SPIP, le 24 septembre à Chaillot. Donc, ce sont deux livres très, très importants pour moi parce qu'en fait, ils signent et signalent en quelque sorte, de deux manières différentes, plus de 10 ans de travail avec Bruno. D'une part, Puissance de l'enquête, c'est vraiment les 10 ans de SPIP, 12 ans en fait. Et la trilogie terrestre, c'est la trilogie, mais en fait, ça récapitule le travail de théâtre ensemble depuis 2009-2010. Donc, c'est un peu deux chapitres qui se ferment, deux livres écrits. Voilà, donc je voulais commencer par signaler cela. Pour vous répondre sur le manifeste compositionniste, et vous me dites quand vous voulez récupérer le micro, parce que là, vous me l'avez donné, c'est dangereux. Le manifeste compositionniste ouvre ce livre « Puissance de l'enquête ». Vous voulez d'abord qu'on parle d'enquête. Le mot enquête, le Puissance de l'enquête, c'est un titre choisi par Bruno. On a beaucoup, beaucoup galéré sur le titre. Les quatre auteurs que nous sommes, enfin pas quatre co-directeurs de l'ouvrage, hein, puisqu'il a été écrit avec les étudiants de SPIP, avec plein d'autres gens. Et c'est Bruno, en plein milieu de l'été, qui a dit « mais c'est Puissance de l'enquête » et ça nous est apparu comme une évidence parce que, comme vous l'avez sous-entendu, le mot enquête est au cœur de toute la pédagogie de cette école des arts politiques fondée donc en 2009. C'est un terme de Dewey, John Dewey, qui met au cœur de la pédagogie et au fond de la recherche la notion de inquiry, qui est qu'on traduit par enquête, mais qui finalement il faut définir un petit peu plus précisément. L'enquête, c'est toute une méthodologie, une manière de partir du terrain, de l'expérimentation. C'est l'idée qu'on ne peut pas comprendre une question sans aller soi-même interroger, suivre les acteurs, les questions. Et bien sûr, on voit tout de suite le lien avec la philosophie latourienne et avec sa manière qu'il a eu de défendre et d'illustrer dans sa pratique sa manière à lui de penser, qui supposait d'aller sur le terrain et de suivre pas à pas, toujours cette idée très modeste, hein, de faire le lien, remonter le fil des questions, aller d'acteur en acteur, comprendre comment les entités humaines, non humaines, matérielles, techniques s'enchaînent pour créer les réseaux qui font notre monde. Donc cette enquête, elle est au cœur de la sociologie latourienne, bien sûr, et elle est à la base de la pédagogie de SPIP.
Le livre s'ouvre par le manifeste compositionniste de Bruno Latour, et ce manifeste est essentiel pour comprendre pourquoi il a voulu créer SPIP au sein de Sciences Po. On peut y lire notamment une attaque fondamentale de art, on va dire art avec un grand A, l'art contemporain ou l'art appris dans les écoles des beaux-arts. Il y a une attaque pour dire faut arrêter avec l'expression. Il lit que nous importe l'expression de leur moi d'artiste, enfin le surmoi artistique tout seul, l'individu moderne par excellence que serait l'artiste. Et à la place, il propose enquête. Ça veut dire collectif, ça veut dire ensemble, ça veut dire on se sort aussi de uniquement l'expression humaine.
Oui, en fait, on pourrait résumer ce mouvement de deux manières. Dans le manifeste compositionniste, il y a cette idée très forte et belle qu'on ne peut faire face aux questions contemporaines, politiques, sociologiques, écologiques, qu'en associant, en alliant les savoirs entre eux, les savoirs au sens le plus large du terme, les savoirs les savoirs savants, mais aussi les savoirs pratiques, mais aussi les savoir-faire, mais aussi les savoirs artistiques. Et cette idée-là, elle est très belle d'abord parce qu'elle remet l'art à la hauteur, je dirais, d'autres savoir-faire. Il n'y a pas de hiérarchie chez Latour, ce qui est fondamental entre une pratique philosophique, une pratique chorégraphique, une pratique photographique et une pratique scientifique. Il n'y a pas d'art ou de discipline qui serait au-dessus des autres. Et en même temps, et c'est le corollaire, l'artiste, qui parfois est un petit peu dévalorisé parce qu'il n'est pas aussi sérieux que le savant, l'artiste n'a pas non plus cette espèce de position hors sol, hors normes, un petit peu de d'aura qu'il aurait dans la conception romantique. Donc vous voyez, pour moi, il y a ce double mouvement qui est fondamental. Par la déhiérarchisation, on remet l'art quelque part à côté des autres pratiques savantes, sachantes, heuristiques, qui nous permettent de faire enquête collectivement, et en même temps, on sort d'une vision romantique. Alors bien sûr, il y avait cette idée qui est... Alors le manifeste compositionniste, Bruno l'a prononcé en 2010 à Beaubourg, à la fin d'une série qu'on avait organisée ensemble, qui s'appelait Le Selon Bruno Latour, où on avait invité Donna Haraway, Isabelle Stengers, des artistes, Eugène Green, enfin c'était un truc complètement délirant quand j'y pense, et c'était génial de finir cette série, où Bernard Blisten nous avait invités, par ce manifeste. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on commençait juste, puis on ne savait pas encore exactement quelle forme on allait lui donner. Et donc on ne savait pas encore à quel point ça allait être compositionniste. Mais après coup, je peux vous dire, 10 ans, 12 ans plus tard, que oui, le fait d'avoir recruté à chaque promo des artistes, des chercheurs, des gens de la société civile, des politiques, ça voulait dire qu'on allait se confronter à un type de personnes qui, quand ils sortent des Beaux-Arts, par exemple, viennent avec leur certaine idée de l'artiste et de l'art. Quand ils sortent de l'université, viennent avec une certaine idée de la recherche. Et donc, cette petite phrase que vous avez notée et qui me fait tant parler de Bruno, elle est essentielle parce qu'il n'a cessé de la répéter au début de chaque année en disant « Bon, on a 3 personnes qui sortent des Beaux-Arts cette année. Il va falloir qu'on leur fasse comprendre que ils ne sont pas là pour exprimer leur moi intérieur. » Et selon les années, moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est que c'est devenu de plus en plus facile. Au tout début de SPIP, ça paraissait très choquant. On avait des étudiants qui renaclaient un peu à cette espèce de mise au pas qui, en fait, pour moi, est une mise à niveau. C'est l'inverse d'une mise au pas, mais qui était parfois ressentie comme telle. Et de plus en plus, cette question-là ne se pose plus. C'est-à-dire que les gens arrivent avec, peut-être parce que SPIP est rentré dans les mœurs, je ne sais pas, mais cette idée que on ne pose pas de hiérarchie, que l'artiste n'est pas en dehors de la société, au-dessus, mais il n'est pas non plus en dessous, qu'on a besoin de lui pour comprendre l'hôpital aujourd'hui. Voilà, cette idée-là est vraiment passée dans les mœurs, et l'idée de Bruno, SPIP n'est pas une école d'art, en fait, ça voulait dire tout ça. Ça voulait dire, on n'est pas là pour demander aux gens d'exprimer leur moi intérieur.
Très rapidement aussi, SPIP a été polarisé par les enjeux de la crise climatique, et donc c'est aussi pour faire réponse à cette catastrophe climatique et écologique qui pesait de tout son poids déjà à l'époque sur la pensée de Bruno Latour et sur nous toutes et nous tous. Je vais citer Bruno Latour et je vais vous poser une question sur les compositionnistes. Il écrit « Une école des arts politiques aura donc pour première tâche de détecter partout les compositionnistes afin de se mettre à leur école et très pratiquement de les faire venir dans l'école. Qui sont ? Que font-ils les compositionnistes ? Je pense que ce n'est pas une question évidente, mais elle fait sens pour savoir un peu ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que c'est que les compositionnistes ?
Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais pour moi, très clairement, ce sont les hybrides. Je n'ai pas souvent entendu Bruno parler des compositionnistes après ce manifeste. Je vous avoue, ce n'est pas un terme qu'on utilisait au quotidien. Voilà. On utilisait par contre beaucoup l'idée d'être SPIP ou pas SPIP. Ça voulait dire ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a recrutés qui étaient déjà des SPIP, au sens où c'était déjà des hybrides, déjà des chimères. Et là aussi, au cours du temps, ce qui était une exception il y a 10 ans devient un peu la règle. C'est-à-dire des jeunes gens qui sont, mais je prends votre exemple, à la fois DJ, qui font de l'art contemporain, qui font de la radio et qui ont un métier à côté. Voilà. Mais ça, c'est un, vous êtes un compositionniste, Dominique. Vous l'avez toujours été. Et en fait, c'est un petit peu comme la prose et Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous un petit peu des compositionnistes, si on regarde sérieusement. Seulement, la société ne nous demande pas de l'être, et ce n'est pas ce qu'on nous demande. Enfin, les catégories socioprofessionnelles ne mettent pas ça en avant. Quelqu'un qui va vous dire avec un petit regard en coin, « Ah oui, je fais aussi la photographie à côté. » Bon, mais si ça se trouve, c'est aussi un grand photographe. Donc, l'idée aussi, dans le rapport aux amateurs et aux professionnels, toute cette question des pratiques artistiques qu'on met à côté, toute cette question-là, finalement, la vision de Bruno extrêmement ouverte nous a permis de les faire exploser et de sortir de ces a priori. Donc, oui, les compositionnistes ou les hybrides, on a eu tendance à les attirer à ce PIP. Une danseuse, anthropologue. Cette année, juste pour prendre un exemple, on a un étudiant qui est agronome et poète. Voilà. Ça pose plus aucun problème à personne, des animaux comme ça, des chimères comme ça. Voilà, j'ai l'impression d'être entourée de ces hybrides-là, mais j'admets que je baigne dans un bain peut-être un peu particulier.
À chaque fois, il y a une commande. C'est par une commande, et c'est pas tant dans ce livre, hein, Puissance de l'enquête, où toutes les commandes sont écrites à la fin. Et puis, la moitié de l'ouvrage, ce sont les élèves de ce PIP qui parlent de comment ils ont traité la commande. Donc, on est vraiment dans... Il y a une commande. Comment se décident les commandes à ce PIP ?
Là aussi, ça a changé au cours du temps. Au début, on allait les chercher un peu nous-mêmes, les commandes. Elles ont été issues d'associations amies... d'institutions qui nous connaissaient. On a beaucoup travaillé au début avec le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, parce que c'était voilà, des gens qu'on connaissait. On a eu des commandes liées aux gens qui nous accueillaient en résidence, le théâtre des Amandiers. On a eu des commandes liées à nos connaissances. Grâce à Jean-Michel Frodon, on a eu pendant 4 ans une commande de l'APHP, des hôpitaux nord de Paris. Donc au début, on a fait de briques et de brocs, pour dire les choses, hein, comme toutes les jeunes institutions. Et puis maintenant, et ça c'est très intéressant, depuis quelques années, on vient nous chercher des gens, des institutions que je ne connaissais pas, que personne du comité pédagogique ne connaissait, qui ont entendu parler de ce PIP et qui se disent, tiens, ça nous intéresse. Donc ça peut être le ministère de la Culture, il y a quelques années, qui vient nous chercher pour essayer de dénouer avec eux ce serpent de mer institutionnel qui était les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, qui ont donné maintenant les ateliers Médicis. Voilà, on a plein d'exemples de commanditaires. L'ANDRA, sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires il y a quelques années. Un grand festival de théâtre franco-belge qui s'appelle Next. Voilà, donc les gens ont un peu entendu parler de ce PIP et on profite de cette petite renommée pour pouvoir choisir des commandes. Et ce qui est important dans la commande, c'est qu'elle soit bien formulée. Donc, ce n'est pas simplement une commande au sens où vous devez faire quelque chose, vous êtes un bureau d'études, on vous donne de l'argent et vous produisez. Déjà, il y a très peu d'argent impliqué dans les commandes, et donc ça nous laisse une liberté totale. On demande simplement aux commanditaires de faire en sorte que les étudiants n'aient rien à débourser s'ils doivent se déplacer, mais on n'est pas payé pour rendre quelque chose. Donc, il y a une liberté, et on tient beaucoup à ça. Et la commande, c'est une question, c'est un caillou dans la chaussure, comme Bruno aimait à le formuler. Ça ne peut pas être un brief. C'est tout l'inverse d'un brief. Et la réponse, c'est tout l'inverse d'une solution. Donc, on passe vraiment par cette question à nouveau très douillienne de reformuler la question, reformuler la commande, faire enquête collectivement, construire la commande au fur et à mesure de l'enquête, plutôt que de répondre à un format déjà donné. Et puis, les restitutions de commandes sont bien souvent des récits d'enquête qui en eux-mêmes déjà sont très parlants. Et aussi très important pour nous, le médium final de la restitution était laissé au libre choix des étudiants. Ça pouvait être quelque chose d'ailleurs qu'ils maîtrisaient, comme une vidéo, un film, s'ils étaient cinéastes, mais ça pouvait être quelque chose aussi qu'ils ne connaissaient pas ou qui ne connaissent pas, parce que le SFIP continue et va très bien, donc il faut que je parle au présent. Voilà, donc les commandes, vous avez raison. Après, le mot enquête, c'est le second mot vraiment qui définit cette école particulière.
Une des grandes commandes, en tout cas celle qui est la plus célèbre, celle qui est restée à la postérité, c'est celle du théâtre des négociations en 2015, 6 mois avant la COP21. Nous en avons déjà parlé pendant le deuxième entretien, donc je renvoie les auditrices et les auditeurs au deuxième entretien que nous avons eu ensemble pour parler du théâtre des négociations. Et je voulais vous interroger sur deux termes qui reviennent dans votre texte. Le théâtre comme lieu d'expérimentation politique, donc ce texte que vous avez écrit dans Puissance de l'enquête et qui traite justement de ce théâtre de négociation en 2015. Et j'y retrouve deux termes, celui de réel et celui de fictionnel. Vous jouez sur ces deux termes afin d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé au théâtre des Amandiers. Vous écrivez: il s'agissait d'une exploration des potentialités politiques du lien théâtral en faisant du théâtre un dispositif pour intégrer la fiction dans les processus de reconfiguration des forces politiques. Un peu plus loin, vous écrivez: aborder des questions politiques par le biais de la fiction, ce n'est donc pas leur interdire tout impact, c'est au contraire les rouvrir et permettre de les interroger autrement. Comment avez-vous envisagé ce dualité réelle, fiction, et ce que permet le théâtre, et en particulier le théâtre des négociations?
Alors là, on revient sur un de nos vieux sujets de conversation, si j'ose dire, et vous voyez bien le lien, alors qu'il est apparemment ténu ou incertain, entre mes premiers travaux et ces expérimentations qui n'ont a priori rien à voir. Sauf que vous avez bien raison, le lien très fort pour moi, je dirais la base continue de tout ça depuis les Contes de la Lune, c'est une immense confiance dans les capacités transformatrices de la fiction, pour aller vite. Alors ça veut dire quoi, capacité transformatrice? Qu'est-ce que la fiction peut faire? Ou que peut la fiction? Je crois que c'est une des choses qui m'intéresse énormément. Sauf que cette question-là, en fait, je n'ai cessé de la poser de 1000 manières différentes. Avec la question de la fiction cosmologique dans les Contes de la Lune. Et puis, après avoir rencontré Bruno et avoir développé vraiment ma compagnie, j'ai continué à poser cette question-là par le théâtre. Et le théâtre m'a permis de compliquer la question de manière passionnante pour moi, puisqu'il ne s'agissait plus seulement, alors que c'est déjà compliqué, de fiction narrative, de récits lunaires, mais il s'agit de ces dispositifs complexes et merveilleux que j'adore, que sont les théâtres. Et en particulier, ce dispositif hyper complexe qu'était le théâtre des négociations, parce que ce n'était pas simplement un plateau de théâtre, un spectacle, un lieu, mais tous les lieux d'un théâtre, tous ces espaces utilisés d'une manière absolument nouvelle. Alors si j'essaie de répondre un peu plus clairement à cette question, en quoi le théâtre des négociations est-il une fiction politique, puisque c'est ça mon hypothèse? Il est une fiction politique à bien des égards, mais l'un des aspects qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'était que c'est une fiction spatiale. C'est-à-dire que c'est intégré dans l'espace réel, puisqu'il s'agit bien d'un espace réel d'un théâtre, avec des murs, des coursives, des couloirs, un jardin, des ateliers, des êtres, des corps, des voix, des présences, voilà. Utiliser toute cette matérialité du théâtre pour modéliser un monde différent. Donc en fait, pour faire une espèce d'expérience de pensée, qui est une de mes définitions de la fiction, comme vous savez, depuis les Contes de la Lune, enfin, une des manières dont la fiction, pour moi, est agissante. Donc c'est quoi l'expérience de pensée, en l'occurrence, qu'on a mis en œuvre là? C'était de dire, jouons en avance, comme vous disiez, c'était 6 mois avant, une conférence internationale sur le climat, et changeons un peu ces règles, changeons ces acteurs, changeons sa scénographie en partie, et voyons ce que ça donne. Donc en ce sens, le théâtre de négociation était vraiment effectivement une expérimentation politique qui se servait du lieu théâtral et de toutes ses potentialités reconfiguratrices pour explorer ces hypothèses-là, qui étaient l'hypothèse du Parlement des choses, en fait. Le Parlement des choses depuis Politics of Nature de Bruno, qui disait, voilà, que se passerait-il, et encore une fois, c'est als ob, comme si, de l'expérience de pensée, que se passerait-il si on ouvrait la question politique aux autres entités que des humains. Voilà. Donc, et cette chose-là, et c'est pour ça que pour moi, c'était, pas que pour moi, mais pour beaucoup de gens, c'était tellement puissant comme expérience, c'est que brusquement, cette hypothèse, ce concept de Parlement des choses, était incarné dans toutes ses dimensions, je le disais, physique, vocale, mais aussi architecturale, scénographique, puisque cette espèce de petit monde qu'est une COP, Conference of the Parties, pouvait être rejoué, modélisé et donc reconfiguré dans l'espace du temps.
Ah, c'est Frédérica Etouati qui nous parle de Bruno Latour. Et elle était tellement proche de lui que, bah, elle a le talent pour le faire. Et je l'écouterai des heures et des heures et des heures. Et vous aussi. Et pour l'écouter plus longuement, bien, vous savez, vous faites sur votre ami Gogol l'émission du Fictionnaire. Vous aurez les interviews en entier. Parce que cette émission, c'est uniquement pour vous donner un avant-goût. Avant une bonne pause musicale salutaire pour se laver le cerveau. Oh bah, et puis là, ça va bien laver le cerveau. Vous dire que juste après, ça sera l'interview avec Jeannette Lin et Patrice Maniglier, les philosophes, pour leur superbe article dans la revue Critique « Ramener la critique sur Terre, le tournant planétaire de Dipesh Chakrabarty » pour parler de ce livre qui fait événement cette rentrée de janvier qui s'appelle « Après le changement climatique, penser l'histoire » dans l'excellente Bibliothèque des Histoires, dans la collection, dans les éditions Gallimard. Mais Karl, pour la pause de nos oreilles, pardon. Je vois le vinyle et il y a un nom déjà, Stockhausen. Je sais, c'est allemand, c'est ton idole, mais c'est pas forcément évident. Faut que tu nous expliques là.
Ça
encore
sera peut-être
faut
un
nous
petit
expliques.
Peu plus rythmé que pour Elian. Hein. Karl Heinz, il va peut-être un peu plus nous réveiller. Allez, c'est ce qu'on va dire.
Mais
c'est
il est bien connu parce que tu nous en passes souvent.
Ah bah oui, il est bien connu. Bah, c'est l'école allemande. Hein. Je crois que tu vas te faire interrompre par notre camarade à la clé. Salut. Un morceau extrait d'un album qui s'appelle Illimité. De toute façon, c'est une pièce sur deux faces. Ça va s'écouter dans pas longtemps. C'est sorti sur Chandard. Et je voulais dire, c'est bien Jeanne Etelin, pas Jeannette Lin, parce qu'au début, j'ai cru que c'était Jeannette.
Ah, et non, c'est Jeanne plus loin. Etelin. Et enfin, ils forment un duo philosophique petit à petit, tous les deux, avec Patrice Maniglier. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut les suivre tous les deux. En tout cas, leur article est puissant. Et avec cette interview, vous allez tout comprendre à Dipesh Chakrabarty. Et c'est important que vous compreniez tout parce que vraiment, ce livre est essentiel à nos nouvelles cosmogonies.
This is the nature of the divine Shakti, that it is the timeless power. This is the nature of the divine Shakti. This is the nature of the divine Shakti. That it is the timeless power of the divine. That it is the timeless power of the divine. Which manifests itself in time as a universal force creating.
Je suis en compagnie de Jeannette Lin et de Patrice Maniglier. Merci Patrice Maniglier de me recevoir à nouveau chez vous. Nous parlons d'un article, d'une recension d'un livre. Et donc cet article est paru dans la revue Critique de août-septembre 2022. Ce numéro de Critique avait pour titre de dossier « Vous avez dit nature » et votre article en commun s'appelle « Ramener
la critique sur Terre, le tournant planétaire de Dipesh Chakrabarty. Pour nous faire comprendre l'entreprise intellectuelle de Dipesh Chakrabarty, vous passez d'abord par le geste fondamental et fondateur de Michel Foucault. J'aimerais que vous nous exprimiez ce geste afin qu'on comprenne dans quoi l'entreprise intellectuelle de Dipesh Chakrabarty se circonscrit sur la zone. Voilà. Comment ça fonctionne grâce à ce premier geste de Michel Foucault.
Oui, bah alors, c'est vrai que, bon, on pourrait dire que ça relève de ce qu'on appellerait l'histoire critique, c'est-à-dire une reprise du projet kantien de dégager les conditions de possibilité d'un savoir, mais en l'historicisant, donc c'est ce que faisait Foucault, c'est-à-dire montrer à quelles conditions historiques de possibilité l'histoire elle-même, en fait, devient possible comme savoir, et d'autres disciplines, comme les sciences sociales en général. Et je crois que Chakrabarty a poursuivi en fait cette entreprise, qui a ça de particulier par rapport à Kant, qu'elle ne confie pas à la philosophie le soin de réfléchir a posteriori, en quelque sorte, et de l'extérieur, sur ses conditions de possibilité, c'est-à-dire sur ses, disons, ses formes épistémologiques, quoi. Mais c'est la discipline de l'intérieur qui se relativise ou qui ressent la nécessité, pour continuer son travail proprement positif, de faire cette opération critique de relativisation d'elle-même en réalité. Donc c'est ce que Foucault faisait en fait. C'est-à-dire Foucault avait montré, je pense aux mots et aux choses, que l'histoire devait elle-même être historicisée. C'est-à-dire que la catégorie d'histoire n'était pas une catégorie intemporelle. Alors évidemment ça ouvre un abîme, en fait, sur la catégorie d'histoire, puisque, du coup, quelle est donc cette histoire dans laquelle l'histoire est elle-même relativisée ? Et c'est la raison pour laquelle Foucault pouvait introduire des catégories comme celle d'événements, ou qu'il avait inventé cette notion d'archéologie, qui oblige à se situer, disons, dans un temps qui n'est ni celui de la philosophie, ni celui de l'histoire positive. Alors, il se trouve que Chakrabarty, je pense, a fait la même chose depuis le début. Et que son entreprise, qui d'abord sort de cet ensemble, ce groupe d'intellectuels, d'historiens marxistes, qu'on a appelé les gens des études subalternes, dont la grande figure était Goa, et qui, donc dans les années, ça doit être quoi, les années 70, je pense, en tout cas c'est là où ça prend forme.
Le numéro fondateur des Subaltern Studies, je crois, qui est sorti dans les années, en 1980, mais c'est dans les années 90 que Gouar commence à rassembler des historiens indiens et britanniques pour un travail de réécriture de l'historiographie indienne.
Voilà. Ouais. Et ils sont dans un contexte, disons, d'interrogation sur les limites, finalement, de l'introduction d'une perspective marxiste aux thématiques de l'Inde, en fait, l'histoire indienne, avec un problème assez simple, en fait, qui est de dire, finalement, le marxisme a développé ses catégories fondamentales, comme celle, par exemple, du travail, dans un contexte intellectuel et culturel assez déterminé, qui est celui de l'Europe pré- et puis industrielle, quoi, pré-industrielle et industrielle, et que ces catégories ne sont pas totalement intemporelles. Et donc que le fait de l'introduire dans le contexte indien, à des fins subversives ou à des fins critiques au regard de la colonisation, a en même temps cet effet paradoxal de prolonger l'acte, disons, de domination coloniale, puisque on se trouve à appréhender une réalité qui est celle de l'Inde, avec des outils intellectuels qui sont certes critiques, mais quand même critiques à partir du monde du colonisateur lui-même. Et donc je crois que, si j'ai bien compris cette entreprise, quoi, les subalternes se disent, oui, j'allais dire plus généralement des études post-coloniales à ce moment-là, mais c'est peut-être, bon, il y a peut-être des nuances, parce que je pense que par exemple Edouard Saïd a un autre problème, mais bon, disons, ces gens-là, je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment une tentative pour avoir un marxisme, on pourrait dire, à l'échelle globale, en fait, non ?
Bah, je veux dire, un marxisme en même temps local, adapté aux situations locales, mais du coup, qui...
Exactement, un marxiste qui dépasse en quelque sorte ses limites provinciales finalement, et qui est capable de donner des outils pour se relativiser lui-même, à vrai dire. Et donc c'est dans ce contexte-là, je crois que Chakrabarti développe sa réflexion. Et il y a, de ce point de vue, moi, un chapitre en tout cas qui m'avait beaucoup frappé, qui est dans Provincializing Europe, qui est sûrement bien le chapitre 4, dans lequel Chakrabarti travaille sur la catégorie de travail, précisément, avec une question qui est de savoir si on peut appliquer cette catégorie de travail, qui est une catégorie complètement sécularisée dans le texte de Marx, à des contextes dans lesquels le travail n'est pas complètement séparé de l'intervention d'entités divines qui, disons, ne relèvent pas de la catégorie de la production, mais de la catégorie de la, on pourrait dire, du rituel, de la vocation, du soin qu'on prête aux divinités.
Alors, on va s'attarder justement sur cet exemple-là que vous citez dans votre article. Qu'on comprenne bien, jusqu'ici, le grand livre de Dipesh Chakrabarti, c'était Provincializing Europe, qui a été traduit en français il y a une dizaine d'années. Ça s'inscrit dans ce mouvement postcolonial et particulièrement des subaltern studies, qui ont d'abord pris place en Inde avec des penseurs. Et dans ce livre-là, vous prenez justement cet exemple de tisserands musulmans d'Inde, du Nord, et de leur usage de prière qui est lié au tissage. Et vous écrivez ensuite, pour nous faire comprendre, « Il n'y a de sens à dire que les tisserands bengalis travaillaient que si on met au jour les opérations de traduction qui permettaient en retour de provincialiser la catégorie européenne de travail. » Qu'est-ce que permet ce concept de traduction qui semble important pour Dipesh Chakrabarti et que vous restituez au début de votre article?
Alors, ce qui est important dans le concept de traduction, je dirais, c'est que donc, dans Provincialiser l'Europe, il y a vraiment l'idée que l'histoire de la modernité, elle a été pensée que selon des paramètres ou des catégories européennes, et que ces termes-là ne permettent pas de rendre compte de la modernisation de l'Inde. Et que donc, dans le programme des études subalternes, il s'agit de prendre au sérieux la parole de ces groupes sociaux subalternes et de prendre littéralement leur catégorie à eux et à elles. Et donc, au lieu de considérer que l'histoire de la modernité est en fait une trajectoire historique où on est pris dans un devenir commun et qui procède par étapes, et donc il y aurait la prémodernité, la modernité, et que ce processus aurait eu lieu en Europe, que ce soit de manière... qui ne soit pas nécessaire, mais de contingente, et qu'ensuite elles auraient été une transition dans d'autres contextes, et se seraient déroulées de la même manière, et dès qu'en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu. Que la modernité ne doit pas être comprise en termes de transition, mais en termes de traduction, et donc de transformation, et qu'en fait, il y a plusieurs trajectoires historiques de la modernité, et donc plusieurs manières d'être moderne, et c'est ça aussi qui est important. Et que donc ce qui est universel, c'est pas tant les catégories européennes, mais les universaux sont en fait, comme on dit dans l'article, c'est les effets de ces processus de traduction. Et c'est dans cet espace-là, cet espace de la traduction, qui fait passer, qui nous fait sentir ces universaux-là.
Ouais. C'est-à-dire que il y a deux positions par rapport auxquelles Chakrabarti, plus probablement que beaucoup d'autres, se situe, et par rapport auxquelles il ouvre une troisième option. La première, évidemment, c'est une forme d'universalisme, en quelque sorte un peu dogmatique, on pourrait dire, au sens kantien du terme, et même au sens ordinaire, c'est-à-dire un peu naïf, consiste à croire que, les êtres humains, par exemple, ils travaillent, voilà, c'est tout. Et donc, on peut étudier la différente manière dont ils travaillent. Bon. Et donc, le travail aurait été transformé, par exemple, sous l'effet des innovations modernes, en quelque sorte. Bon, première option. Deuxième option qui serait de dire, bah non, en fait, le catégorie de travail est une catégorie, elle est inventée à un certain endroit, elle n'est pas nécessairement pertinente partout, et donc cette catégorie ne vaut que pour l'Angleterre, la France, l'Angleterre décrite, parce qu'en fait c'est ça le grand modèle, c'est le livre de E.P. Thompson sur la formation de la classe ouvrière, en fait. C'est, pour ces gens-là, c'est ça le modèle. Le modèle, c'est ce grand livre de l'historien britannique du monde ouvrier, E.P. Thompson. Et donc, bon, voilà, donc, ça veut dire qu'on l'aurait, en quelque sorte, localisé, alors relativisé dans un sens, à mon avis, incorrect du mot relativisé, c'est-à-dire, en fait, contextualisé, tout simplement, la catégorie de travail. Et le choix que fait Chakrabarty, c'est en effet, comme Jeannette Lin vient de le dire, c'est celui de la traduction, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le travail est bien universel, mais il n'est universel que parce qu'il a été effectivement traduit, de fait, traduit point par point. Et traduit veut donc dire modifié, en fait. Et s'il a été modifié, ça veut donc dire en retour qu'il y a donc une différence, en effet, entre le travail au sens européen et le travail au sens indien, et qu'on ne saura ce qu'est le travail au sens européen, donc la catégorie de départ, que si on la compare à ce qu'elle a donné dans sa traduction. Et c'est ça que veut dire provincializing Europe. Et c'est un point qui a quand même été, je trouve, assez mal compris. Y compris parce que le titre, évidemment, un peu fort, enfin un peu provocateur, bon, qui paraît assez trivial aujourd'hui, quoi, provincialiser l'Europe, voilà, c'est-à-dire l'Europe est un petit bout, c'est un tout petit bout, c'est une province parmi d'autres.
Mais c'est
un
particulier.
Voilà, c'est un particulier, donc d'une certaine manière, ça alors qu'en fait, le livre de Chakrabarty veut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire il veut dire, justement, en réalité, c'est précisément parce que l'Europe a été traduite que du coup, on peut la provincialiser, et que ça n'est qu'à la conduction, qu'on comprenne les variations, les transformations, pour reprendre ce mot qui a été utilisé, là, qui ont eu lieu dans la traduction, qu'on pourra comprendre cette particularité, effectivement, qu'est l'Europe. Et donc, sur le cas du travail, ça donne, par exemple, effectivement, le fait que un monde dans lequel le travail est aussi une forme de la prière ne veut pas dire que, du coup, le travail ne s'y applique pas et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ça veut dire qu'on comprend mieux ce que c'est que le travail par opposition à une situation dans laquelle il est aussi une prière. C'est ça la provincialisation,
et donc la relativisation. La méthode de Chakrabarty, vous la décrivez ainsi, une histoire critique conséquente doit étudier les traductions de ses propres concepts. Et ça, c'est une phrase qui fait vraiment penser. Une histoire critique conséquente doit étudier les traductions de ses propres concepts. Mmh. Ça serait ça le travail de Chakrabarty, qui est sans cesse d'étudier les traductions.
C'est ça. Donc il est historien véritablement, au sens où il fait en même temps, on pourrait dire, une sorte d'épistémologie historique et anthropologique de ses propres catégories fondamentales. Et ça, il le fait depuis toujours. C'est-à-dire, quelle est la limite de validité? Enfin, disons, je suis historien, ça veut dire je pense qu'il y a quelque chose comme de l'histoire à faire. Et je ne peux comprendre ce que ça veut dire que faire de l'histoire et appréhender les êtres comme des êtres historiques qu'à la condition de me mettre dans ce travail de traduction de la catégorie d'histoire. Elle n'est pas du tout évidente, elle n'est pas garantie d'avance. Donc, et là encore, il ne s'agit pas de dire donc elle est purement particularisée, contextuelle, locale, etc. Ça veut dire non, il y a moyen de construire un universel de l'histoire. Mais ça ne peut se faire qu'à la condition d'analyser la manière dont la catégorie même d'histoire peut être traduite pour être rendue valide dans des contextes où elle ne le serait pas a priori.
Je vais être un peu trivial. Le nouveau livre de Dipesh Chakrabarty vient d'être traduit en français. Désolé, ça rien à... on ne parle pas du tout de cette même type de traduction. Mais voilà, c'est vient de sortir chez Gallimard la traduction de The Climate of History in a Planetary Age, et votre article dans la revue Critique est une recension du livre en anglais. Il a été traduit en français par Après le changement climatique, penser l'histoire. Ce titre en français est problématique puisqu'il gomme le terme de planétaire. Or, vous écrivez que Chakrabarty affirme que la véritable question qui caractérise notre présent exige d'introduire un couple conceptuel, celui du global et du planétaire, d'où son titre anglais, The Climate of History in a Planetary Age.
Oui, c'est vrai que ce titre et cette traduction est un peu surprenante, mais je ne pense pas que ce soit ici les traducteurs hein, qui soient en jeu, c'est plutôt les éditeurs. Et c'est vrai que c'est un choix qui est malheureux, a priori, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a après le réchauffement climatique.
Après le changement climatique.
Ah, quand même.
C'est l'histoire.
C'est déjà ça. Donc, après, c'est un peu curieux parce que, bon, on n'est pas après, quoi. On est au milieu. Donc, déjà, c'est déjà très étrange de présenter les choses comme ça. Je comprends néanmoins le penser l'histoire parce que c'est bien ça dont il est question, je crois. Ça, c'est vrai. C'est vrai que l'enjeu de ce livre, effectivement, est de faire de l'histoire un objet de pensée. Alors là encore, au sens vraiment foucaldien.
Ce que j'allais dire, c'est que le terme, quand même, enfin, la traduction qui a été choisie, alors, gomme, une des contributions cruciales de ce livre, qui est justement la catégorie de planétaire. Mais il y a ce geste, quand même, de diagnostic du présent et de prendre en considération le réchauffement, enfin, le changement climatique, comme événement qui nous force à changer nos catégories de pensée. Et ce qui intéresse chaque rabarti en tant qu'historien, c'est évidemment la catégorie, enfin c'est sa pratique de l'histoire, et la catégorie d'histoire et de temps historique, plus précisément.
Oui. Donc je vous interroge aussi sur ce couple conceptuel qu'introduit chaque rabarti et qui est nouveau, qui nous offre. Ce couple conceptuel est celui du global et du planétaire, et c'est tout l'enjeu de son livre, d'avoir ce couple conceptuel. Peut-être pouvons-nous commencer par la distinction entre le global et le planétaire.
Alors, le global correspond en fait au régime de planétarité une conception et une pratique de la Terre telle qu'elle a été produite par l'histoire de la colonisation, du capitalisme, de la mondialisation, d'où le global qui vient en anglais de globalization, ici, et donc des pratiques de la modernité, techno-scientifique, mais aussi économique et politique. Et l'idée fondamentale de Chakrabarti, c'est que la terre de la mondialisation, le globe de la mondialisation, n'est pas la même terre, en fait, que la terre de la planétarité, qui est donc cet objet qui émerge, comme dirait Bruno Latour, comme actant à l'ère avec l'Anthropocène. Du fait des activités humaines qui donc, ont un impact sur les dynamiques planétaires, sur les cycles bio-géochimiques du système Terre. Et que donc, ce sont deux catégories distinctes, la Terre de la mondialisation et la Terre de la planétarisation, mais dont elles sont prises dans des trajectoires historiques différentes, mais ça ne veut pas dire que leurs histoires ne se rencontrent pas. Et pour chaque rabarti, c'est important de souligner que oui, la Terre de la planétarité émerge à partir de la mondialisation, mais que son histoire, elle, n'est pas réductible à cette histoire de la mondialisation, et notamment du fait de son devenir et du fait de ce qu'elle interpelle d'un point de vue de nos catégories et... de notre réponse.
Alors nous allons revenir tout au long de l'entretien sur ce couple conceptuel, mais on va d'abord commencer par le premier chapitre du livre de Chakrabarti. Le premier chapitre, c'est The Climate of History Forecast, et c'est son article de 2009 qui a été immédiatement célèbre, puisque dans cet article, il pose la question de la temporalité et d'une nouvelle temporalité, c'est-à-dire que le temps géologique s'accélère et qu'il rejoint notre temporalité humaine. Vous écrivez, il ne s'agit pas tant pour Chakrabarti d'insister, comme d'autres le font, sur l'agentivité des non-humains que sur le caractère géologique de l'agentivité humaine elle-même. Il y a un temps chronologique qui commence à se croiser, ce temps géologique et cette temporalité humaine. C'est ce qu'il introduisait dans cet article de 2009, qui est le premier chapitre de son livre.
Oui, là on voit bien qu'il est dans le même objet que ce que Stenger s'appelait aussi l'intrusion de Gaïa, dont elle disait bien au fond que, évidemment, la Terre, ça a 5 milliards d'années, d'un certain côté. D'un autre côté, la Terre est une idée neuve, en fait. Enfin, c'est pas une idée, d'ailleurs, c'est une chose neuve, très récente, qui, au fond, date peut-être des années 70, c'est-à-dire en tant qu'elle a commencé à infléchir par ses actions les actions d'autres êtres. Donc, nous avons l'habitude de dire que Gaïa est un actant sur la Terre. La Terre est un actant sur la Terre. Est un actant parmi d'autres sur la Terre. C'est comme ça qu'il faut, je crois, comprendre, en fait, cette notion de Terre. Sinon, on a l'impression d'un paradoxe, au fond, un peu gratuit. Mais ce n'est pas un paradoxe gratuit, c'est effectivement le fait que les équilibres biogéochimiques, à partir d'un certain seuil, disons, de modification, impliquent des réactions qui ne sont pas entièrement prévisibles. Et c'est un point sur lequel, moi, j'aime bien insister, parce qu'il me paraît important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'agentivité, en fait, du système Terre. On peut parler d'un agent à partir du moment où il n'est pas simplement une conséquence linéaire d'une autre force, qui est entre la cause et l'effet, quelque chose d'un petit peu incertain, qui est un système, en l'occurrence. Et c'est ça qui fait qu'il y a une réaction. Et donc, c'est ce système qui réagit. Donc là, en l'occurrence, c'est un événement. C'est ça qui est important. C'est que la Terre est un événement. La Terre n'est pas une chose, en fait. La Terre, dans le sens dont il est question ici, c'est un événement. Et alors, c'est un événement qui est hyper intéressant, puisque c'est un événement qui remet en cause la grille générale d'appréhension des événements qu'on appelle le temps. Une manière de situer les événements les uns par rapport aux autres. Et c'est une des grandes contributions inestimables, quand même, et immédiate que Chakrabarty a fait à ce débat, en disant, mais attendez, regardez ce qui est en train de se passer ici. Ce qui est en train de se passer, c'est que les schémas de repérage que nous avons des événements sont totalement bouleversés par cet événement même. Et là, on voit bien ce que ça veut dire l'histoire critique. C'est un événement qui remet en cause la conception même de l'événementialité, comme telle. Donc il est, voilà, à la fois empirique et spéculatif, il fait les deux à la fois. Et donc l'argument est très simple, il est de dire, bon, finalement, la temporalité historique au sens classique du terme, c'est celle dont parle Thucydide, quoi, dans lequel des agents humains luttent les uns contre les autres pour modifier, on pourrait dire, leurs institutions, enfin leur cadre d'existence, le cadre d'existence qu'ils fabriquent eux-mêmes, dans un cadre qui lui-même reste neutre, qui peut être modifié par eux, certes, et d'une certaine manière avoir aussi des effets, l'éclatement des effets, mais qui n'est pas justement un agent au sens propre, et encore moins un agent au niveau global. C'est-à-dire que le climat peut avoir des effets sur la bataille, mais ces effets ne sont pas des conséquences de la bataille elle-même, et ne sont pas non plus des conséquences de la bataille elle-même indirectes, telles que ce serait une réaction du système climatique à la bataille, et troisièmement, ne sont pas en plus des conséquences du déséquilibre du niveau global, quoi. Et c'est ça qui se passe. Et donc cette conjonction du temps historique et du temps géologique produit un effet de diplopie, on pourrait dire. On voit deux choses à la fois. On n'arrive pas à s'accommoder sur un temps ou sur l'autre. On est tout le temps dans les deux, en fait. Et c'est vraiment des choses très simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en contribuant à utiliser de l'électricité produite par des réacteurs, des centrales nucléaires, on produit des déchets nucléaires, des déchets radioactifs qui ont des durées de vie de centaines, enfin plusieurs, ça dépend lesquels, mais enfin ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc ça veut dire que l'action que je fais aujourd'hui pour me chauffer dans un temps relativement limité peut être évaluée au regard du problème de la guerre en Ukraine, en même temps doit s'évaluer du point de vue temporel dans une échelle de temps qui excède jusqu'à la possibilité même de survie d'une espèce. Donc c'est cet écart, enfin, ce mélange permanent, ce déraillage permanent d'une temporalité à l'autre. Donc Chakrabarty dit il fait la caractéristique de l'événement.
Oui, en fait, du coup, ce qui est vraiment important pour Chakrabarty dans cet article, c'est de dire la notion d'anthropocène, c'est pas simplement qu'il y a une interaction entre les activités humaines et leur environnement, et que les événements climatiques ont un impact sur l'histoire humaine, mais c'est de dire que en fait, ce sont les activités humaines qui ont un impact, qui sont une partie intégrante de la géophysique de la Terre, y compris après leur, au-delà de l'existence humaine.
Ça va être à écouter en entier sur Google, émission du Fictionnaire, ça y sera dès demain. Jeannette Lin, et puis bien entendu le philosophe